Fait qu'on va continuer dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9. On va juste relire finalement cette portion. Et ce que j'aimerais faire aussi aujourd'hui, après qu'on ait vu un peu ce que les Écritures nous enseignent ici, on va prendre le temps de demander au Seigneur vraiment qu'il nous amène dans le lieu très saint. Parce que c'est une chose de l'entendre, mais c'est une autre chose de le vivre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint. Il y avait le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, ou plutôt l'encensoir, et l'arche de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Et c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments et les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, l'auteur ici, encore une fois, dans son épître, travaille à amener les croyants qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ à vivre par la foi maintenant dans l'œuvre accomplie de Christ. C'est facile de le lire, c'est facile de le dire, c'est une autre chose, par contre, de le vivre quand on en a vraiment besoin. Quand tout va bien, on peut se raconter beaucoup d'histoires. On peut être pas pire là-dedans, de se raconter des histoires. Tant que la réalité ne nous frappe pas en plein front, on peut croire que oui, moi, je crois vraiment dans le Seigneur, moi, j'aime Jésus, moi, j'aime le Seigneur. Et puis la journée qui ne fournit pas le stock comme tu penses qu'il devrait le fournir, des fois, il y a comme une petite réaction bizarre. La petite réaction bizarre, c'est le relevé de notes, c'est le petit bulletin que le Saint-Esprit nous envoie en disant, regarde, t'es rendu là, chum. Donc, comme on a vu ici, c'était, encore une fois, toute l'ancienne alliance, pour se le rappeler, la loi donnée et toutes les ordonnances était dans un but. C'était finalement les promesses de Dieu. La loi a été donnée pour nous dire ce que nous devons être. En d'autres mots, comment Dieu nous a créés. Mais finalement, depuis qu'on a brisé l'alliance dans le jardin, eh bien, le péché nous a complètement déformés. Et puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour se connaître, vous remarquez une chose, pour se connaître, là, on est toujours en train... supposons que je pointe vers quelqu'un en disant, « Hey, gars, fais attention, t'as quelque chose. » C'est-tu fatigant dans ce temps-là? Vous cherchez votre téléphone pour prendre une photo pour voir ce qu'il y a sur votre face. Il nous faut toujours un reflet pour se connaître. Puis le danger, c'est que chacun de nous, on a une connaissance de nous en fonction des reflets qu'on a eus. Une des premières places qui nous a définis, l'image qu'on a de nous, par exemple, où on a été élevé. On peut avoir des bons parents, des moins bons parents, des bonnes situations, des moins bonnes situations, peu importe. Ça le fait un reflet et ça nous a donné une certaine définition de nous. Il ne faut pas sous-estimer le milieu dans lequel on vit. Les proverbes nous disent, par exemple, si vous voulez devenir sage, qu'est-ce qu'ils nous recommandent si quelqu'un veut devenir sage? Celui qui veut devenir sage, bien, s'il se tient avec des sages, il va devenir sage. Et si tu te tiens avec des moqueurs, tu en porteras seul la peine. Donc, inévitablement, il y a un effet beaucoup plus important qu'on peut penser de l'environnement dans lequel on vit. Et donc, finalement, le Seigneur a rappelé à Israël, c'est un peuple qui s'est mis à part, qui a fait alliance avec Abraham, pour revenir dans tout le détail, eh bien, il va, par la chair d'Abraham, par la postérité qu'il va produire avec ce monsieur qui est marié avec une madame stérile en plus, et puis entre autres, le Seigneur, il aime ça attendre. Lui, c'est l'éternel, il n'est pas stressé avec le temps. Nous autres, là, on compte les minutes parce qu'on n'a pas si longtemps que ça à vivre. Hein? Et puis, il appelle Abraham vieux. Il est déjà vieux quand le monsieur commence sa mission, 75 ans. Bon, je ne veux pas dire vous êtes tous des vieux, là, mais pensez 40 ans, vous êtes vieux. Donc, finalement, il lui donne une promesse comme quoi il va devenir le père d'une multitude. Mais la madame avec qui il est marié est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Je suis sûr qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu souvent. Hein? Abraham, souvent, après un petit souper avec sa femme, dit « On va-tu évangéliser à soir, chérie? » Et puis, il n'y avait pas beaucoup de conversions qui se faisaient. Et puis, finalement, le Seigneur va attendre 25 ans quasiment plus tard pour dire, non, c'est avec ta femme que tu as une postérité. Puis lui, il n'arrive plus à se le raconter, il n'arrive plus à se le faire à croire. Parce qu'il y a une différence entre croire et se faire à croire. Et Abraham, finalement, il a vaincu son incrédulité simplement en obéissant. Ce n'était pas compliqué, son obéissance, là. Il a dit à sa femme, bien, écoute, c'est ensemble qu'on est supposé avoir de l'enfant, fait que chérie, on va se donner des petits becs à soir. Et puis, ils se sont tellement aimés que le petit comique est sorti. Parce qu'Isaac, ça veut dire on joue, on rit, c'est comique. Donc, tout ça pour nous rappeler finalement que depuis le début, le malin finalement rôde sans arrêt. Et ce qu'il produit dans nos vies, c'est au fond de l'incrédulité, nous rendre insensibles aux choses de Dieu. Parce que finalement, on vit dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Puis en plus, même si on est né de nouveau, on a une nature, on a encore la chair. Et la chair en nous, c'est une nature qui est encore en rébellion contre Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la présence de Dieu dans notre vie, parce que le Saint-Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et si on ne fait pas attention dans tout ça, si on ne garde pas une communion avec Dieu, soyez pas surpris que tranquillement les désirs de la chair reprennent le dessus et ça reproduit à nouveau les ambitions de la vie du monde. Et tranquillement, il y a des chrétiens, à un moment donné, après un petit bout de temps, ils déconnectent. Ils ne sont plus là. Ils n'ont plus les désirs de marcher avec Dieu. Donc, il faut vraiment se méfier du malin. Et puis, après ça, de revoir l'Ancien Testament comme étant l'image, l'ombre de ce qui devrait arriver. Le danger qu'on a souvent, c'est de se confier plus dans ce qu'on voit que dans ce qu'on entend. Rappelez-vous, ici, les chrétiens, là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est en train de dire aux Juifs de l'époque, « Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, dans son œuvre, sa mort et sa résurrection, maintenant, par la foi, manifestez votre foi en Dieu en n'allant plus au temple. » Écoute, il y a plus d'un millénaire. Si on pense que c'était le lieu où Dieu faisait reposer son nom. « Par la foi, n'allez plus là. Par la foi, n'offrez plus d'offrandes au temple. N'allez plus voir le souverain sacrificateur à Jérusalem. » Est-ce que vous réalisez comment ces gens-là devaient se sentir face à leur famille? C'était pas n'importe quoi. Ils passaient pour des athées, ils passaient pour des apostates. L'apôtre Paul, avant d'être converti par le Seigneur Jésus-Christ, était un inquisiteur. Il allait chercher tous les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ et qui avaient manifesté leur foi en abandonnant finalement toute l'image pour vivre maintenant avec la réalité. Mais une réalité que tu reçois que par la foi, et la foi vient de ce que tu entends, ce que tu entends vient de la parole de Christ. Et ce n'est pas n'importe où, ils se sont retrouvés en prison. Paul en a même fait tuer avant d'être chrétien. Un qui avait vraiment bien compris, c'était Étienne. Et quand Étienne a parlé clairement à ses persécuteurs, il leur a rappelé qu'ils étaient des gens avec un cœur dur. Donc, finalement, pour nous, c'est vraiment important d'avoir, de regarder les types pour savoir qu'est-ce qui est accompli, c'est réalisé. Quand il dit ici, rappelez-vous, il y avait deux lieux dans le tabernacle. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, les prêtres, les lévites pouvaient rentrer là tous les jours et le matin, ils mettaient l'encens sur l'autel. Il préparait, nettoyait le chandelier sans arrêt pour voir que les choses soient propres. Le chandelier, finalement, ne marchait pas avec des chandelles en passant à l'époque. Là. C'était de l'huile. Okay? Et c'est encore une autre image. Jean va prendre cette image pour rappeler finalement qui on est, l'Église, dans le monde, des chandeliers. Et un chandelier, pour qu'il puisse s'illuminer, bien, il fallait qu'il soit fioulé par de l'huile d'olive pure, qui est encore un symbole du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, sans communion avec Dieu, sans conscience propre, eh bien, finalement, ce qui est notre accès au trône de grâce, qui est la vie de prière, n'oubliez pas, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher vos prières d'être exaucées? Oui, le péché. Quelle sorte de péché, entre autres? Oui. Oui, mais il y a quelque chose de plus simple que ça encore. Les gens mariés. Le manque de respect. Un gars qui manque de respect envers sa femme, il a beau prier puis jeûner, il ne sera pas écouté. 1 Pierre 3:7. Oublie pas que ta femme a part à la même portion que toi de la promesse de vie. Il dit, parce qu'oubliez pas, à l'époque, là, la femme, là, c'était une subalterne. Il y avait un mépris total. C'était même considéré quasiment comme une mineure. Ça ne fait pas tellement longtemps ici au Québec que les madames ont le droit de voter. Hein? Moi, quand j'étais petit, puis tu sais, la maîtresse, souvent, fallait revenir faire signer des affaires par nos parents. Quand ma mère signait, quand j'étais petit, là, elle signait Madame Jacques Lorrain. Moi, je capotais à trois fois, je voyais ça, j'en revenais pas. Tu sais, ma mère, elle ne s'appelle pas Jacques, me semble. Et puis, je me rappelle aussi une fois, elle devait se faire opérer parce que la médecin avait dit à ma mère, écoutez, il ne faut plus avoir d'enfants, vous, parce que il n'y avait pas à l'époque le fameux vaccin, là, tu sais, le RH positif négatif. Le premier qui sort, il est correct, mais après ça, il vient de déclencher un processus que les autres après, là, l'enfant est considéré quasiment comme un anticorps, tu sais, quelque chose. Fait que ma petite sœur Brenda est sortie, on appelait ça les bébés bleus. Tu sais. Et puis après ça, mon petit frère Mario, lui, est mort de ça. Et puis, à un moment donné, quand la médecin avait dit à ma mère, elle dit, écoutez, il ne faut pas avoir d'enfants, c'est dangereux pour vous, puis c'est dangereux pour les enfants, t'sais. Et puis, ils ont retardé un peu. Puis mon père et ma mère, ben, ils se sont aimés un soir. Et puis finalement, ma petite soeur Nathalie était en processus. Et puis là, il y avait un docteur, finalement, qui avait dit, écoutez, il faut sortir le bébé avant. Ils l'ont sorti, Nathalie, ils l'ont sorti à 7 mois. Ils l'ont mis dans un... Ouais. Et tu sais, pour une petite poulette, là. Et puis, la médecin avait dit à ma mère, elle dit, écoutez, il faudrait vous faire ligaturer les quoi déjà? Les trompes. Les trompes, ça fait drôle, ça fait comme un éléphant, ça, non? Les tuyaux. Fait que elle, ma mère, a dit, ben, OK, il n'y a pas de problème. Mais elle a dit, attendez, vous êtes catholique, vous, hein? Elle a dit, oui, puis. Parce que c'est un professeur, un docteur juif, là, tu sais. Elle dit, non, c'est parce que vous, là, il faut la signature de votre mari et en plus, il faut la signature de l'évêque. Ma mère dit, comment? Fait que mon père arrive le soir, tu sais, à l'hôpital. Elle dit, Jacques, viens y. Mon père, quoi? Signe le papier. Lui, OK, pourquoi? Non, c'est pour faire le gâturer, il faut le signe. Ah oui, signe. Fait que, OK, il signe. Fait que comme ça, elle se fait opérer. Et puis finalement, je ne sais pas, moi, quelques mois plus tard, mon père était marié à l'époque. Il faisait partie de la gang, tu sais. Et puis, je ne sais pas, il parle au curé, il dit, hey, en passant, ben oui, ma femme, elle s'est faite ligaturer les tombes. Et puis, tu sais, hey, Jacques, tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu veux que je te parle de ça? Non, non, ben il fallait que tu m'en parles, puis moi, je vais faire une demande à l'évêque pour voir s'il dit oui ou non. Ah, ouais! Tu sais? Puis il vient voir ma mère, puis il dit, hey, chérie, tu as fait quelque chose de méchant. Hey, s'il en veut des enfants, il s'en fera lui-même, OK? Et puis, ma mère a un petit peu déconnecté de l'Église après. Tu comprends? Donc, tout ça pour montrer finalement que le Seigneur nous regarde dans nos relations humaines. Et si on retourne aux Écritures, puis vraiment de les comprendre comme du monde. En passant, un couple, là, c'est complémentaire. Mais je sais que mes amis qui sont complémentaires, souvent, ils ne veulent pas parler de la première partie. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés égaux. Et la vraie liberté, la vraie maturité se mesure toujours dans notre capacité d'aimer servir, d'aider l'autre. Tu sais, les petits boss de Bécosse, là, on connaît ça, des petits boss de Bécosse? Des gens qui sont des control freaks, là? Eh bien, ces gens-là, c'est de l'insécurité, puis il faut qu'ils contrôlent tout. Ça, c'est une marque d'immaturité chronique et dangereuse. Parce que la vraie liberté, si je veux voir, moi, la vraie maturité, d'après vous, là, si vous cherchez quelqu'un qui a vraiment une maturité par excellence, vraiment, là, vous allez trouver où votre modèle? Tes parents? Bon, OK, mais moi, il faut que je regarde ailleurs un peu. Non, non, mais regarde, si je veux trouver le vrai modèle, où c'est qu'on peut le trouver? Non, moi, te donner la réponse, ça va être plus vite, tu vas voir bien. La réponse du vrai modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Écoute, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est fait en être humain véritable. Paul nous le rappelle, il s'est fait un homme véritable. Ce n'est pas un Dieu déguisé en homme, là. Hein? Tu sais, comme le film Cocoon, là, tu sais, c'était des extraterrestres qui se déguisaient en être humain, là. Jésus ne s'est pas déguisé en être humain. Il s'est carrément fait un être humain. Il fallait qu'il vienne comme il nous a créés. OK? Et lui nous a montré la vraie maturité, la vraie liberté. Vous vous rappelez, c'est toujours la fameuse passe là, qui faisait capoter tous ses disciples, quand il s'est déshabillé au dernier souper. Il se déshabille, n'oubliez pas, dans la culture juive, là, tout le monde est très pudique. Hein? Le Seigneur se déshabille, il met un linge autour de lui là, pour cacher ses parties, là, tu comprends? Et puis, Pierre, il est là, capote bien raide, tout le monde le regarde, wow, wow, tu sais. Et puis là, il vient avec un bassin d'eau, parce qu'oubliez pas, il n'y a pas de table. Léonard de Vinci s'est trompé avec sa peinture, là, tu comprends? C'est un grand tapis. Tout le monde est couché sur le côté. Fait que tu ne laves pas juste tes mains quand tu t'en vas manger à quelque part, tu comprends? Tu te laves aussi les pieds, parce que si tu manges à côté des pieds de l'eau, on dit, oh, il y a du fromage bleu qui s'attend quelque part. Ça fait que le Seigneur se penche, il arrive devant Pierre, il est quasiment à genoux devant Pierre pour lui laver les pieds. Pierre capote de non, 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 non! T'sais, il veut quasiment sauver la dignité du Seigneur. Parce que n'oubliez pas, Pierre, la grande discussion majeure des disciples entre eux autres, tant qu'ils n'ont pas compris la vraie maturité, c'était toujours « qui est le plus grand? » Quand quelqu'un veut toujours savoir qui est le chef, c'est qui? C'est moi le chef! C'est un épais. C'est un bébé encore. Pas plus compliqué que ça. Parce que finalement, c'est dit, non, non, vous m'appelez Seigneur, vous avez raison, je le suis. Écoute, quand tu penses que Jésus est là, il est le créateur de tout l'univers. Est-ce que vous imaginez? Il est l'auteur et le créateur de toutes choses. S'il y en a un qui avait le droit de dire, vous êtes à moi, c'est bien lui. Il dit, non, non, je vais vous montrer la vraie liberté. Les gars, vous êtes des déformés. Vous êtes tout fêlés, vous êtes pathétiques. Je veux vous transformer à ce que j'ai fait quand je vous ai créé. Et c'est pour ça que la sanctification, Paul lui-même, qui a vraiment eu un parcours de sanctification hors du commun, Paul lui-même dit, on est transformé de plus en plus à son image. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que Pierre va rappeler, lui qui a connu aussi une sanctification, parce qu'il est devenu serviteur plutôt que le petit boss de Bécosse, parce qu'il se demandait toujours, tiens, avec les autres, discussion en chemin, qui est le plus grand, qui est le plus grand. sais, c'était vraiment une phobie chez ces gens-là, mais comme ça reste une folie pour la plupart d'entre nous, parce qu'on vit trop, encore une fois, dans une auto-justification. Ou bien on croit que Christ a vraiment tout payé notre dette et il a mis à notre compte sa propre justice afin qu'on soit parfaitement et totalement justifié, afin que maintenant notre service ne soit plus en vue de rentrer en compétition les uns contre les autres. Mais tout ce que Dieu va nous donner après, ça va être pour discerner d'abord sa volonté, pour après entrer dans le service comme lui-même l'aurait fait, car on est son corps. Dans Jean 4, il va rappeler quelque chose à ses disciples lorsqu'il arrive avec le lunch. Vous vous rappelez, ils sont en Samarie. Jésus, ils ont vu Jésus parler avec une femme. Déjà, ils étaient surpris de voir qu'il parlait avec une femme. Et puis, en plus, une Samaritaine, tu sais. Fait que, et puis, elle s'en va. Il arrive avec le lunch. Vite, mange vite, tu sais, parce que les gars sont nerveux. Hein. Tu sais, les Juifs en Samarie, là, c'était stressant un petit peu à l'époque, tu sais. Et puis, finalement, il dit, non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Oh! C'est quelqu'un qui a amené un lunch? C'est quoi cette nourriture-là qu'on ne connaît pas? Puis, juste un ou deux versets plus bas, le Seigneur le rappelle, dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, normalement, ça devrait être notre nourriture à nous autres. Et c'est comme ça que notre homme intérieur se fortifie. C'est comme si ça fait, je ne sais pas moi, deux semaines que vous ne mangez pas. Est-ce que vous avez des petites faiblesses? Alors, finalement, si on ne discerne pas les œuvres de Dieu et qu'on n'entre pas dans ses œuvres, on n'est pas dans le désir de trouver sa volonté et de marcher dans sa volonté, notre homme intérieur ne se nourrit pas. Et c'est comme ça qu'on est renouvelé sans arrêt. Donc, c'est pour ça que toutes les images ici du temple sont une représentation de ce qui est maintenant parfaitement accompli en Christ. Mais faites attention, le Seigneur nous regarde dans nos relations. OK? C'est pour ça que même dans nos familles, le respect l'un envers l'autre est très important pour le Seigneur. Il dit à l'homme, il dit, oublie pas, ta femme a la même part que toi dans la vie. Et c'est triste de savoir que même dans le monde chrétien, ça a pris des générations et générations. Et malheureusement, des fois, c'est des non-chrétiens qui ont amené finalement la vraie libération de la femme plutôt que finalement des gens qui étudient les Écritures. Pas pathétique, ça? L'insécurité est un signe d'immaturité. Et c'est dangereux, parce que plus les gens sont insécures, plus ils veulent contrôler. Et puis, finalement, ils veulent aussi développer un mode de vie en compétition les uns contre les autres pour être capable de vous donner, finalement, l'impression que vous êtes un subalterne. Tout est accompli à cause de Christ, pas à cause de nous. Et c'est vraiment important qu'on le discerne, ça, tout ça. Puis un des points ici qui montre comment le Seigneur finalement travaille dans son peuple, c'est la verge d'Aaron. Vous vous rappelez encore l'histoire de la verge d'Aaron? Ça s'est fait finalement dans une révolte. Les gens étaient les leaders, encore une fois, en Israël, dans le désert, commençaient à toujours dire, hey, « Moïse, c'est quoi? C'est toute ta famille qui mène tout le monde ici? Pour qui vous prenez? » Puis c'est même pas juste le peuple. Vous vous rappelez que Myriam, la sœur aînée de Moïse et d'Aaron, c'est Myriam qui a sauvé le petit Moïse, le petit bébé, là, vous vous rappelez? Et puis, les trois étaient appelés au ministère prophétique. Vous vous rappelez à un moment donné ce que Myriam a dit à son petit frère Aaron? Elle dit, écoute, on est nous autres aussi prophètes, hein? Pourquoi c'est toujours Moïse qui parle? Écoute, Moïse faisait juste répéter ce que Dieu il disait dans la colonne de feu puis de fumée. Tu comprends? Même elle était en compétition avec son petit frère. La compétition entre nous autres, c'est quelque chose d'ultra malsain. C'est dangereux. Donc, vous vous rappelez, finalement, elle a été frappée de lèpre pendant une semaine de temps. C'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'entre nous autres, c'est vraiment important qu'on puisse dire, écoute, Seigneur, amène-nous dans le lieu très saint. Parce que c'est trop facile de rester juste au niveau de l'information et puis quasiment, je ne sais pas moi, de se conformer à la vie chrétienne. Ce n'est pas une conformation. Tu sais, dans le sens, ce n'est pas acté. Le Seigneur nous dit que sa parole, par le Saint-Esprit qui va l'illuminer, va nous transformer. Il va y avoir une métamorphose, une liberté qui nous délivre finalement de toutes les phobies de la chair. Et ça va se faire tranquillement un petit peu à tous les jours dans notre vie par toutes sortes d'événements où on mêle la foi à ce que Dieu a dit par rapport à tous les besoins et les épreuves qu'on peut avoir. Il y a juste, en passant, on peut prier les uns pour les autres, mais pour être transformé, il y a juste vous devant le Seigneur tout seul. Hein? Ça, c'est vraiment important. Là. On peut demander aux gens des fois de nous soutenir par la prière, mais c'est juste quand vous allez mêler la foi à ce que vous savez ce que l'Écriture dit, quand vous allez développer une attitude d'humilité et de dépendance envers le Seigneur Jésus-Christ, qu'il va y avoir une transformation dans votre vie. En dehors de ça, là, oubliez ça, il n'y a rien qui va arriver. Et le danger qu'on peut avoir entre nous, c'est de jouer aux chrétiens. Pas vrai? Mais ça, là, ça va durer juste une saison, puis à un moment donné, vous allez craquer. Donc, le Saint-Esprit rappelle ici que tant que le temple, c'est pas pour rien que le Seigneur a fait détruire Jérusalem, et entre autres, il a fait détruire le temple à Jérusalem. En le détruisant, savez-vous quoi? Ça a été un scandale pour les Juifs, ça a été une crise terrible pour eux autres. Mais en réalité, ils n'ont pas compris que le Seigneur les libérait en disant, « Maintenant, je vous enlève l'image, cherchez la réalité. » Et puis, s'ils voulaient vraiment continuer à croire en Moïse, parce que c'est ce qu'il disait toujours à Jésus, « Nous, on croit en Moïse. » Est-ce que vous vous rappelez que Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le Seigneur l'avait dit, quand Israël va aller trop loin dans le péché, quelle était une forme de discipline que Dieu faisait sur le peuple? La dispersion. Ils chassent de leur pays. C'est arrivé dans l'Ancienne Alliance parce que Israël ne respectait pas les Shabbats. Pas celle du samedi seulement, mais aussi celui qu'à chaque 7 ans, la 7e année, on devait prendre une année sabbatique. On ne cultive rien, on ne fait rien, on reste chez nous et on a une année off à chaque 7 ans. Et Israël ne l'a quasiment jamais fait. Et là, le Seigneur un jour a dit, « OK, c'est assez, je vais donner au sol son repos, je vous déporte. » Et ça leur a coûté 70 ans. C'est un châtiment assez sévère. Après ça, le Seigneur a dit, « Je vais vous ramener. » Maintenant, une fois, on était en voyage, on venait, moi puis Maïna, de faire une tournée en Allemagne puis en Hollande, dans les églises là-bas, tout ça, tu sais. Et puis, on prend l'avion, on embarque dans l'avion. Et puis, c'était vraiment drôle. À côté de moi, il y avait finalement un musulman. Et puis, à côté de Maïna, il y avait un juif. Tu sais, hassidim, là, tu sais. Et puis même, j'ai tourné ça en joke, parce que le monsieur juif nous a regardé. J'ai dit, non, regardez, Maïna... C'est un « vous » en chrétien. Parce qu'il était lui avec, habillé en noir et blanc, Maïna. Puis Maïna me regarde en disant, puis le gars à côté de musulman, ben c'est un gars comme moi. T'sais? Et puis un moment donné, Maïna disait, « Watch, ben, t'sais, quand le soleil va commencer à se lever dans l'avion, t'sais, on va voir, il va être obligé de se lever, puis je ne sais pas comment il va faire, mais il va aller faire sa prière, il faut qu'il se lave les pieds dans la chambre de bain, t'sais, dans un avion. Il faut vraiment que tu sois un gars du cercle du soleil pour être capable de te laver les pieds là-dedans. » Et ça, puis là, à un moment donné, le gars, il dit, excusez-moi, oui, OK. Puis là, puis il revient nu-pied après. Écoute, moi, il ne fallait pas jurer, j'essaie de ne pas rire pendant tout, tu sais. Mais après ça, on a commencé à parler, je parlais aux musulmans, je dis, hey, tu crois en Dieu, toi, là, hein? Oui, non, je vois tes pieds, tu crois en Dieu, c'est sûr. Je dis. Mais je dis, tu trouves-tu ça bizarre, finalement? Regarde, moi, je suis chrétien, regarde, notre chum là-bas, c'est un juif, toi, tu es musulman. Et puis, on est 3 religions qui sortent du même monsieur qui s'appelle M. Abraham. Et puis, tu trouves-tu finalement que Dieu, des fois, est un petit peu compliqué? Ah, il disait, oui, un petit peu, tu sais. Je dis, écoute, sais-tu quoi, ça serait-tu le fun si Dieu avait décidé de venir lui-même régler notre problème tout seul? Ça serait pas le fun, ça? Ben oui, mais écoute, quand même. Je dis, non, pas de quand même, il n'y a pas de quand même. Puis, on a commencé à parler ensemble, tu sais. Puis là, le juif a commencé à s'énerver. Oh, là, là. Je dis, attends. T'as-tu déjà demandé à tes rabbins comment ça se fait que ça fait 2000 ans que vous avez été expulsés d'Israël? Qu'est-ce qui s'est passé finalement en 70 que vous avez été kickés dehors du pays, selon Moïse? Hein? Fait que là, il dit, c'est quoi finalement dans tes commentaires, les rabbins? Ah, c'est parce qu'on avait manqué de communion fraternelle, on a manqué d'amour fraternel. Envers quel frère? Je dis, écoutez, c'est pas n'importe quoi ce qui vous est arrivé, finalement, en 70. Puis il y a un monsieur, là, finalement, qui vous avait même dit que votre génération ne pensera pas, qu'il n'y a pas pierre sur pierre, qu'il ne va pas être renversé et tout va être détruit, dont le temple. Et là, ça fait à peine une cinquantaine d'années que vous êtes revenu en Israël, puis vous êtes revenu avec des armes, puis vous êtes obligé de vous battre à tous les jours pour essayer de garder votre territoire. Tu trouves que c'est vraiment la paix du Seigneur, ça? Tu sais, puis qu'on a pu discuter après ça de l'Évangile, tu sais, c'est intéressant, tu sais. Non, mais dans le sens que c'est des réalités, tu comprends? Puis le musulman à côté, je dis, écoute, sais-tu quoi? Il y en a un qui nous a vraiment lavé comme il faut. Par son sang. Là, il dit, ah oui, oui, t'as pas besoin de te laver les pieds, chum. Tu sais, je dis, honnêtement, est-ce que tu réalises qu'on est trois et six religions qui croient à un Dieu saint? Il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans sa présence. Tu penses-tu que même en se lavant les pieds, finalement, en faisant des prières, qu'on pense qu'on va rentrer dans sa présence? On est tous fêlés. Il parlait un peu français, il parlait surtout anglais. What do you mean, failing? We all crack in our mind. Et puis, finalement, on n'a plus avoir un bon temps. Je disais, regarde, la seule chose, pourquoi tu ne demandes pas au Seigneur, ton Dieu, demande à Dieu, c'est-tu vrai l'histoire de Jésus-Christ? Parce qu'il dit, en passant, tu lis ton Coran, même le Coran parle de Jésus. Il parle de lui comme étant la parole de Dieu. Ça fait qu'écoute, poser des questions, parce que sais-tu quoi? Moi, je peux juste parler de lui. Lui est assez grand pour répondre pour ces questions parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Nous autres, on peut juste être des témoins qui répètent l'information. Va le voir, puis je te garantis, il va te répondre. Fait que la musique, oh, yeah, what? You have nothing to lose. Et puis, finalement, je me disais, c'est vrai que pour les deux, là, le juif là-bas, Hassidim, puis le musulman. Moi, puis maintenant, on a l'air deux bizarres parce que. Puis même le danger, une fois, du christianisme, c'est d'avoir sacré le bâtiment. Il n'est pas sacré le bâtiment ici, OK? C'est du bois. C'est du ciment. Ça marche? Et que finalement, je dis non, parce que tout est accompli. Tout est réalisé. On ne vit plus dans les images, mais la tentation qu'on a tous, c'est de retourner aux images. Même dans le christianisme, on peut vendre des petites médailles bénies, de l'eau bénie, toutes sortes de choses de même. Non, les deux sacrements qu'on a, c'est un rappel. Paul dit aux gens, en Romains 6, il dit, le baptême, c'est, est-ce que vous ignorez, vous tous, qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Mais quand est-ce qu'on a été baptisés? Ce n'est pas quand j'ai été baptisé dans l'eau, c'est quand le Seigneur m'a baptisé en Christ. Et là, il y a eu repentance et foi. Et c'est comme ça que l'Église reconnaît sur le témoignage. C'est pour ça qu'on baptise une personne sur sa foi, sa déclaration de foi. Puis quand on prend la Sainte-Seine le dimanche, c'est pas le sacrifice de l'Église. On ne transforme pas le pain en corps de Christ pour le briser en disant « on fait le sacrifice à nouveau ». Il dit « faites ceci en mémoire de moi, comme la Pâque ». À chaque année, ils remangeaient finalement un agneau pour se rappeler comment Dieu les avait délivrés d'Égypte. Dieu les avait délivrés d'Égypte sur sa promesse, pas parce que ce peuple-là était plus saint que les autres, qui faisait bien des prières, puis qui, tu sais, je veux dire, à la limite, le peuple hébreu, là, il n'y avait même pas de religion officielle. Il y avait juste des promesses. Moi, je suis sûr qu'ils faisaient plein de cérémonies style égyptienne. La preuve, quand vous lisez finalement, quand ils sont sortis d'Égypte, puis les psaumes rappellent comment ils sont sortis d'Égypte, Dieu dit, « Hey, vous êtes sortis avec l'étoile du Dieu Mpah, puis vous êtes sortis finalement. » Puis la première chose qu'à un moment donné, les gars étaient tannés en disant, « Ah, il est parti sur la montagne, ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu. Ah ouais, Aaron, on veut un Dieu qu'on voit. » Fait qu'il dit, « OK, amenez de l'or. » L'église d'Aaron, tout le monde est prêt à donner bien du cash pour ça. Lui, il va nous donner quelque chose de concret, cette. Ah ouais. Puis quand Moïse est descendu, parce que c'est vraiment drôle parce que Dieu dit à Moïse, ton peuple se rebelle. Ça fait penser comme un couple, on dirait. Hein? Tu sais, quand ça ne va pas bien, ta fille, là, elle ne va pas bien. Là, tu l'as-tu eu ensemble, cet enfant-là? Oui, mais c'est ta fille. Anyway, tout ça pour dire qu'il descend, puis il va parler à Aaron, puis Aaron dit, non, mais écoute, ils m'ont donné l'ange, j'ai mis ça dans le feu, puis bing, ça a sorti comme ça. Ben oui, tu me prends-tu pour un épée, toi, là? Et puis finalement, en plus, Dieu dit, non, ils m'ont fait une image de moi, sais-tu quoi? Ils m'ont fait en vache. Une vache qui mange du gazon, imagine-toi. Mais pour eux autres, c'était l'idée encore du fameux taureau en Égypte, des dieux finalement égyptiens. Donc, c'est pour ça que retourner aux Écritures, c'est vital en disant, OK, Seigneur, il y a juste toi qui peux nous garder. Moi, ce que je voudrais qu'on finisse, puis j'aimerais qu'on demande une chose au Seigneur. Est-ce qu'on est vraiment conscient? Est-ce qu'on est conscient que le voile est déchiré et qu'on peut vraiment entrer dans la présence de Dieu devant son trône de grâce pour lui dire, écoute, Seigneur, illumine notre entendement? Ou bien, est-ce qu'on vient ici à chaque dimanche, puis là, le dimanche, on écoute le message, et puis on endure ça longtemps, tu sais, OK, il va finir bien vite, là. Et puis après ça, on s'en va le restant de la semaine, tu sais. Est-ce qu'on est conscient qu'on est privilégié d'être dans sa présence? Parce que moi, j'ai l'impression que, comme entre autres, ce petit chose-là que Pasteur Rive a fait trouver sur Internet, hein? Très bon, M. Spark, l'école de Christ. Pas cher, 5 piastres. Yves va faire 50 cents de profit là-dessus. Il va devenir très riche avec ça. Mais savez-vous quoi? Ce gars-là, il nous montre une chose. Le danger pour beaucoup de chrétiens, c'est de passer le gros de leur vie chrétienne juste dans le lieu saint. Tiens, oui, la doctrine, c'est vital, toutes ces choses-là, mais le voile est déchiré et maintenant, il n'y a plus deux compartiments. Le voile étant déchiré, il faut aller devant le trône de grâce pour avoir finalement vraiment une illumination dans notre entendement pour pas qu'on joue aux chrétiens, mais qu'on soit littéralement en train de produire le fruit de l'Esprit en nous. C'est pour ça que Paul va dire, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on est capable de le dire, ça? Pour vrai? Pas juste réciter le verset biblique pour dire, écoute, Seigneur, je suis capable de dire que c'est vraiment toi qui vis en moi ou c'est moi qui me conforme à toi plutôt puis je joue aux règles? Qu'on soit une église vraiment fioulée par le Saint-Esprit, tout le monde, sans exception, afin que le chandelier qu'on doit être dans le monde, on soit là comme étant des témoins de son œuvre à lui, et non pas juste des gens qui veulent juste être gentils puis se soumettre aux règles, ainsi de suite. Fait que ce que je nous propose, là, c'est demander au Seigneur qu'il nous le montre. Il n'y a rien que lui qui veut nous prendre par la main puis nous faire entrer dans sa présence. OK? Je vais vous faire un acte de foi dangereux. Levez-vous, on va prier. Avec ou sans masque, je m'en fous. Levez-vous, OK? On va demander au Seigneur qu'il nous amène lui-même dans son lieu. OK? Parce que c'est une chose d'en parler, mais le Saint-Esprit nous montre ici qu'ayant détruit le sanctuaire visible, maintenant, on peut rentrer dans le lieu très saint. Fait que Seigneur, on a beau lire ça dans ta parole. Le danger qu'on peut avoir, par contre, Seigneur, c'est de rester juste, au niveau juste intellectuel. Seigneur, par contre, on peut te demander, et c'est ce que je te demanderais, Seigneur Dieu. Toi, tu sais exactement où on est rendu. Chacun de nous ici. Même nous, on ne sait même pas souvent où est-ce qu'on est rendu. Parce que tu nous connais, Seigneur Dieu. On peut se raconter plein d'histoires, des fois. Seigneur, prends-nous par la main parce que tu es devenu notre grand frère. Et en plus, Seigneur Dieu, tu es devenu notre souverain sacrificateur. Et par ta mort, Seigneur Jésus-Christ, tu as déchiré le voile afin qu'on puisse venir en toi, parce qu'on est en toi, Seigneur Dieu. Venir en toi devant la présence de ton Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Seigneur, on veut être rempli de toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, on ne veut pas juste de l'information. On veut vraiment que ta parole vivante nous transforme, afin qu'on soit des témoins, Seigneur Dieu, qu'on ne soit pas juste des acteurs, mais que vraiment que tu puisses, Seigneur Dieu, nous nourrir, nous remplir de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Et on ne vient pas parce qu'on le mérite. On vient au nom de Jésus-Christ. On vient au nom de son sacrifice, Seigneur Dieu. Et s'il y a des choses qui te frustrent dans notre vie, Seigneur Dieu, montre-nous-les pour qu'on te les confesse et qu'on les abandonne et qu'on puisse croire aussi à ton pardon. Seigneur Dieu, je te demande aussi de bénir nos foyers, puis pas simplement parce qu'on s'aime puis on veut être heureux, mais parce que, Seigneur Dieu, tu nous regardes dans nos relations humaines et même aussi les uns envers les autres, afin qu'on ait un amour fraternel sincère. sincère. Seigneur, s'il vous plaît, il y a juste toi qui peux faire de nous ce chandelier qui brille, de ton huile qui brûle, afin que c'est, comme Paul le dit, on pourrait vraiment l'affirmer de plus en plus, c'est pas nous qui vivons, c'est pas nous qui te portons, mais c'est toi qui vis en nous, c'est toi qui nous portes, c'est toi qui nous transformes. Seigneur, si tu veux qu'on soit tes témoins, prends-nous par la main et amène-nous, Seigneur Dieu, s'il faut, à un réveil. Vraiment qu'on se réveille devant toi, qu'on soit conscient de ta présence. Seigneur, s'il vous plaît, le monde s'en va dans les ténèbres. Des millions de gens en ce moment, même par la force des gouvernements, des médias, marchent de plus en plus dans les ténèbres. Au point qu'on a justifié, on protège et même on va commencer à donner des amendes à ceux qui s'opposent aux sacrifices humains qui se font en ce moment. Des petits-enfants se font tuer juste parce que quelqu'un veut finir son sous-sol. Si bol, Seigneur. On est dégénéré pas à peu près comme peuple. Seigneur, on est tellement confus que les gens se rebellent de A à Z, de toutes choses. Les gens veulent se prendre pour des dieux et se réinventer eux-mêmes. Seigneur, on a besoin d'un vrai réveil. On n'a pas juste besoin de l'information, Seigneur Dieu. On a besoin que tu nous réveilles d'abord, nous, ton Église. Parce que même entre nous, croyants, des fois, on n'est vraiment pas des lumières. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, pardonne-nous à cause de Jésus-Christ et réveille-nous, Seigneur Dieu, que tout le monde ici, Seigneur Dieu, on puisse être rempli de ta lumière afin de marcher dans ta volonté, Seigneur Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas naturelle, spirituelle. Toi seul, Saint-Esprit, tu peux nous accorder ces choses. C'est ma supplication, Père, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus, afin que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci d'avance. Amen. Que Dieu vous bénisse, tout le monde. Faites-vous rasseoir. Si jamais vous vouliez le message que je vais préparer, trois pages, vous me le direz, je vous enverrai.